bienvenue au culte de l'Église. Ce matin, on est dans la joie de célébrer encore le Seigneur. Alors, je vous invite à fléchir le genou ce matin et à chanter pour notre roi des rois. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On frappe dans les mains.
Plus grand que nos pensées.
ta bonté. Seigneur, ce matin, je te prie pour les âmes assoiffées, les âmes qui sont dans le désert, qui ont besoin d'une eau vive. Et je te prie ce matin que tu puisses nous remplir de ton amour. Plonge-moi, inonde-nous dans ta rivière d'amour, s'il te plaît, Seigneur.
Restaurer, guérir, quand ton onction m'envahit.
intervient encore aujourd'hui. Oui, je crois que tu es un Dieu qui agit hier, aujourd'hui, demain. Tu es un Dieu qui étend ta main sur nous. Et Père, nous voulons vraiment encore te prier pour notre église de l'Épi. Viens étendre ton esprit. Viens y mettre ta touche, Seigneur, encore aujourd'hui, encore ce matin, encore maintenant. Car je crois que tu es le Dieu de miracles. Car je crois que tu agis encore aujourd'hui. Tu es vivant et nous voulons le déclarer par ce chant encore. Oui, je crois en toi. J'aimerais qu'on le chante avec conviction encore.
Celui qui défie l'impossible. ensemble, vous voulez bien vraiment l'acclame avec nos voix? Parce que c'est facile. Non, c'est facile avec les mains, mais avec nos voix. Est-ce qu'ensemble, on peut dire merci Seigneur ensemble et le remercier encore une fois? Seigneur, merci. Amen. Merci pour la vie. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Merci parce que nous sommes libres de notre péché grâce au sang versé. À toi soit toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Waouh, c'est tellement bon la présence de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu puissant qui nous aime, qui a donné son fils à la croix, non pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, mais parce que j'ai raté ma vie. Amen. Amen. Et vous le savez que il n'y a pas que le dimanche matin où on se réunit. Il y a des groupes de maison, il y a des groupes de vie. Alors si vraiment vous êtes nouveau, déjà bienvenue. On peut les accueillir s'il y a des nouveaux, s'il y a des gens de passage. Donc si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans la semaine, je vous invite à aller au point accueil. Vous avez toutes les informations. Comme vous le savez, le projet immobilier, c'est on reste, d'accord ? Et je sais qu'il y en a, ils sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, où on en est, comment ça va se passer. Et il y a plein de questions qui peuvent surgir dans nos têtes, dans nos cœurs, parce que c'est un projet, mais c'est surtout les plans de Dieu que l'on veut faire. Alors, nous vous invitons le mardi 26 novembre, une réunion Zoom, pour venir poser toutes vos questions. Alors, soyez nombreux à vous connecter. Vous avez un flyer au point accueil, pareil, avec un QR code où vous avez le lien pour venir vous connecter. Venez nous inonder de vos questions et on va essayer d'y répondre convenablement. Alors, je vais demander à Jérôme de monter. Je ne sais pas si vous êtes impatient de l'entendre, mais moi, je vous assure, cette semaine, il préparait la prédication. Et j'aime bien des fois parce qu'il est fait oh, « c'est incroyable ce que j'ai découvert !» Et je lui disais encore ce matin, j'ai hâte d'entendre ce que vraiment le Seigneur a mis sur son cœur. Alors on va prier, que vraiment il soit rempli de Dieu. Seigneur, je te prie pour Jérôme et je te remercie pour ce que tu as mis sur son cœur. Seigneur, je te prie vraiment que Seigneur, tu puisses agir par l'action de ton esprit à travers lui et que nos cœurs, Seigneur, soient attentifs, nos oreilles soient bien ouvertes, que ce ne soit pas un message de plus, mais que ça impacte encore nos cœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen. Merci, Anne, de dévoiler comment je prépare mes messages la semaine. Est-ce que vous allez bien? Vous n'avez pas trop froid dehors? L'hiver arrive un peu plus tôt que prévu, j'ai l'impression quand même. Je ne sais pas vous. On va essayer de se réchauffer ensemble avec un sujet assez particulier. Je vais parler du nerf de la guerre ce matin. L'argent. Je pense que vous connaissez l'expression, l'argent, le nerf de la guerre. D'après plusieurs études, l'argent est un des sujets les plus tabous en France, mais aussi dans nos églises évangéliques. Apparemment, 8 Français sur 10, en tout cas selon plusieurs sondages, 8 Français sur 10 estiment qu'être riche, c'est mal perçu. Et ils vont dire que si tu demandes à quelqu'un son salaire, c'est un manque d'éducation. On n'aime pas l'argent. Puis plusieurs spécialistes disent que ça, c'est dû à l'église catholique à l'époque. Pourquoi ? Parce que la pauvreté était, on faisait l'éloge de la pauvreté. Il fallait être pauvre pour être spirituel. C'était quelque chose de super important. Et l'avarice, c'était un des 7 péchés capitaux. Ce qui veut dire que ce qu'on disait aux riches dans l'Église catholique, c'est cachez vos richesses, cachez-les, ne les montrez pas, parce que la Bible condamne les riches. C'est ça qu'on disait. Ce qui fait qu'on a pris l'argent, on en a fait un sujet tabou, et on n'en parlait pas trop à l'église, et ça a influencé la France, parce qu'on a un pays avec une histoire catholique, avec une tradition catholique. Ce qui fait que c'est devenu un des sujets les plus tabous en France. Question, est-ce que c'est un sujet tabou pour la Bible? Est-ce que c'est un sujet tabou pour Dieu? Quelques chiffres juste pour répondre à cette question. Dans la Bible, à peu près 500 versets parlent de la prière. On est d'accord que c'est un sujet important. 500 versets parlent de la foi. 2000 versets parlent d'argent et de possession. 16 paraboles sur 38 parlent d'argent et de possession. Jésus a parlé d'argent plus que tout autre sujet avec le royaume des cieux, puis avec différents sujets, mais l'argent était un sujet fortement abordé par Jésus. Il a dit différentes choses. Il a donné des avertissements, des condamnations, des conseils, mais aussi des promesses rattachées à l'argent. Il avait établi Judas pour gérer les finances de son ministère. Et souvent on l'oublie, mais son ministère était soutenu par des femmes qui étaient riches. Donc Jésus savait comment aborder l'argent et surtout, il l'abordait de tous les angles possibles. Il a insisté sur quoi ? Sur le danger de l'amour de l'argent. Parce que l'argent est neutre, bien qu'on va voir qu'il n'est pas si neutre que ça. L'argent est neutre, mais il a dit, l'amour de l'argent, ça c'est dangereux. Il va dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, il va dire aussi, et ça va être le texte qu'on va voir ensemble, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment emporter son argent au ciel ?» Toute ma vie, pendant des années, on m'a dit que je ne pouvais pas emporter mon argent. On m'a dit que tout ce que je possède sur terre, je ne pourrais pas l'emmener au ciel. Mais vous savez quoi ? Jésus dit l'inverse. Et avant de me traiter de prospérité, laissez-moi aller au bout de mon message, s'il vous plaît. Jésus enseigne l'inverse. On peut emmener notre argent au ciel. Il y a un moyen de l'emmener au ciel. Et on va voir ensemble à travers une des paraboles les plus bizarres. Moi, pendant des années, je n'étais pas à l'aise avec cette parabole-là. C'est dans Luc 16, versets 1 à 13. On va la lire ensemble, mais avant ça, la parabole est tellement bizarre que l'Empire romain, au 4e siècle, se servait de cette parabole pour dire que les chrétiens sont encouragés par Jésus à être malhonnêtes. Jésus, dans cette parabole, selon l'Empire romain au 4e siècle, avait l'empereur Julien qui disait ça, il faut se séparer du christianisme parce que Jésus leur dit qu'il faut frauder. On va lire la parabole ensemble. Luc 16, versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vient lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire ? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive. » répond-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, » répond-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Donc il abaisse les crédits des gens. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Les gens de ce monde, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, et les enfants de la lumière, c'est les disciples de Jésus. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Quelle parabole bizarre ! Je ne sais pas vous, mais sans vraiment l'étudier, c'est assez difficile de comprendre. Okay, qu'est-ce que Jésus met en avant ici ? Le gars, il vole de l'argent et dit « il faut faire comme lui ». C'est ça au premier abord qu'on a en tête. Mais pour bien interpréter ce genre de parabole, déjà, il faut voir dans quel contexte ça arrive. Okay ? Et pour savoir qui est qui, il faut regarder un petit peu au contexte et puis quels sont les personnages qui sont dedans. Quand on regarde à Luc 15, juste avant, il y a trois paraboles aussi, dont celle du fils prodigue. J'avais prêché là-dessus il y a quelques mois. Et le fils prodigue, c'est quoi ? C'est un père qui a deux fils. Et les fils étaient aussi engagés à gérer les biens de leur père. Et là, on a la même chose. On a un homme avec un intendant. L'homme riche, c'est Dieu. L'intendant, c'est chacun des disciples de Jésus. Et déjà, on a un premier élément, et on va s'arrêter dessus. La moitié de mon message, ça va être sur ce mot intendant. Parce qu'il est super important pour comprendre comment emporter son argent au ciel. Qu'est-ce que c'est un intendant ? C'est quelqu'un qui gère les biens d'un autre. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui, sur terre, ça ne m'appartient pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tout ce que j'ai, mon argent, mes biens, tout ce que j'ai pu obtenir, même si je crois que c'est par mes propres forces, en fait, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et toute la Bible le dit. Puis je pense que c'est tellement important de se le rappeler. Psaume 24, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Deutéronome 10, verset 14. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. On continue. Agée 2, verset 8. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Tout ce qu'on peut avoir sur terre appartient à Dieu. Et comme c'est difficile de se rappeler, on va lire un dernier verset, 1 Chronique, chapitre 29, verset 14 à 16. Écoutez ça, je trouve ça fou. Ça, c'est le roi David qui parle. Qui suis-je, en effet ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et toute la Bible va le dire. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va continuer le verset après. La Bible ne dit pas de donner sa dîme, la Bible dit d'apporter sa dîme. Parce que la dîme appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Les termes sont super importants ici. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout t'appartient. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tellement besoin de me rappeler ces vérités-là. Que tout ce que j'ai, ultimement, ce n'est pas à moi. Mais Dieu me les confie pour un but précis. Pour un but vraiment précis. Puis on va voir à travers cette histoire avec l'intendant. Mais j'ai remarqué une chose. Au plus je me souviens que tout ce que j'ai appartient à Dieu, au plus je vais grandir dans quatre domaines qui sont super importants. Puis je vais juste les traverser ensemble rapidement. Au plus je me rappelle que Dieu est propriétaire de tout ce que j'ai, au plus je vais être en paix. Parce qu'en fait, c'est sa responsabilité de prendre soin de moi, de pourvoir à ses besoins. Je dois gérer les biens qu'il me confie. Mais ultimement, Dieu va dire, Jésus va dire, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Ça, c'est les païens qui s'en inquiètent. Moi, je prends soin des oiseaux alors qu'eux, ils récoltent même pas, ils moissonnent même pas. Et je prends soin d'eux. Dieu est propriétaire de mes biens, ce qui veut dire qu'il est responsable de pourvoir à mes besoins. Ça ne nous déresponsabilise pas. On va le voir après. Mais au plus je me rappelle que tout appartient à Dieu, au plus je lui fais confiance que ok, il va prendre soin de moi parce que c'est son argent. Et je pense que Dieu sait gérer son argent. Je pense que Dieu sait gérer. Deuxièmement, au plus je me rappelle que tout appartient à Dieu, au plus je vais être dans le contentement. C'est un mot, c'est un principe de vie difficile à vivre. Surtout dans une société où on encourage à transformer nos désirs en besoins. John Wesley, un des grands théologiens prédicateurs du XVIIIe siècle, a dit la chose suivante quand sa maison a brûlé. Il est propriétaire d'une maison, sa maison a brûlé, puis il a dit la chose suivante, je trouve ça assez drôle. Mais il a dit, la maison du Seigneur a brûlé, une responsabilité en moins pour moi. Là, il est arrivé à un niveau de, ok, tout appartient à Dieu. Et si je perds quelque chose, c'est pas moi qui le perds, c'est Dieu. Je trouve ça intéressant. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez le film Into the Wild. Excusez-moi pour mon accent. L'histoire vraie d'un jeune homme de parents super riches. Le papa travaille à la NASA. Puis c'est un jeune qui est en dégoût de la société de consommation. Et ce qu'il fait, il en a marre de voir ses parents dépenser de l'argent, vivre dans un monde de riches, le monde du capitalisme, tout ça. Enfin, il est vraiment en réaction à ça. Et il décide de tout donner. Tout l'argent qu'il a, il donne 25 000 dollars à une asso, il coupe ses cartes bancaires, il vend tout ce qu'il a et il s'en va, il part à l'aventure, il prend son sac, bref, puis c'est un film assez incroyable. Bon, à la fin, ça finit pas très bien, mais je vous spoil pas si vous voulez le voir. Mais il y a plusieurs notions, moi, qui m'ont vraiment impacté, c'est un de mes films préférés parce qu'il y a différentes valeurs qui sont vraiment importantes. Et il y a une des chansons dedans, de Eddie Vedder, c'est un gars qui fait de la country aux États-Unis, qui dit la chose suivante. Quand tu veux plus que ce que tu as, tu te crois dans le besoin. Et cette phrase, ça fait 10 ans qu'elle résonne dans ma tête parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et c'est exactement ça que les pubs veulent me faire croire. C'est quand tu y vends un produit, c'est il faut que tu l'aies là. Si tu veux être vraiment toi, si tu veux être libre, si tu veux être heureux, il faut que tu aies ce produit-là. Sauf que l'apôtre Paul va dire quoi ? J'ai appris à vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance. Il ne fait pas la promotion de la pauvreté là. Il dit juste que je sois riche, que je sois pauvre. En fait, j'ai appris à être dans le contentement. J'ai appris à me satisfaire de tout ce que Dieu me donne. Tout ce que Dieu me donne. Peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu as, peu importe ce que j'ai besoin d'apprendre. Puis c'est un apprentissage. L'apôtre Paul a dit j'ai appris. Il n'a pas dit c'était inné. Il a dit j'ai appris. C'est-à-dire qu'il a certainement galéré avec ce principe-là, mais il a appris. Au plus, je me rappelle que tout appartient à Dieu, au plus ça me pousse au contentement et du coup ça me pousse à la gratitude. Au plus, je suis reconnaissant pour tout ça. Il y a une étude des hauts conseils de la famille qui ont essayé d'évaluer, j'en ai parlé avec le CS cette semaine, qui ont essayé d'évaluer combien coûte un enfant à ses parents. Et jusqu'à ses 20 ans. Alors je pense que je vais en effrayer plusieurs. En moyenne, ok, c'est une moyenne, donc je pense qu'il y a différentes classes sociales qui sont dans cette étude. En moyenne, un enfant jusqu'à ses 20 ans coûte 180 000 euros à ses parents. Ce qui veut dire que si tu as 5 enfants au plus, tu es millionnaire. C'est incroyable. Tu es millionnaire en valeur humaine, on va dire. En valeur humaine. Non, mais c'est fou. Et je me confesse, quand j'ai lu ça, j'ai eu deux réactions. La première, je ne suis vraiment pas fier. La première, c'était mais qu'est-ce qu'elle me coûte cher, mes filles. Je me suis confessé après. Je me suis vraiment confessé. Ça a duré 5 secondes. Mais après, j'ai eu une autre réaction. Et j'ai eu un temps de pause. J'étais en train de préparer le message. J'étais chez moi dans le salon. Puis j'ai fait une pause. Je fais, mais Seigneur, merci de pourvoir à mes besoins pour que je puisse prendre soin de mes filles. Parce que ultimement, c'est pas moi qui est généreux envers elles. C'est Dieu qui est généreux envers moi. Et après, c'est ma responsabilité d'être généreux envers elles. Je dis elles parce que j'ai deux filles, juste pour que vous sachiez. Mais c'est Dieu qui est généreux. C'est Dieu qui est généreux. Et moi, j'ai un rêve. Et je pense que c'est le rêve de tous parents. Mon rêve, puis je pense que je le vis à chaque jour, surtout quand je vais au magasin avec mes filles. Mon rêve, c'est que mes filles réalisent que tout ce qu'elles ont, c'est moi qui leur donne. C'est mon rêve. Ok, Carole, c'est vraiment mon rêve. Que tout ce qu'elles ont, ça coûte des sous et que c'est un sacrifice de ma part. Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont dans le même cas que moi. Tu sais, ouais, ma fille est blanche des fois, elle dit, allez, viens, on va au restaurant. Je fais, mais non, ça coûte des sous. Je fais, mais c'est simple. Tu prends ta carte, tu fais bip et on mange. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et là, je suis content parce qu'on a eu, une petite avancée. C'est que on était chez papy hier et puis elle a dit, ah, j'ai compris, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Je fais, ah yes. Elle a enfin compris que c'est à la sueur du front que je peux lui acheter des bonbons. Voilà, elle a enfin compris. Et vous savez quoi? Je pense que Dieu a le même rêve. Je pense qu'un des rêves de Dieu, c'est que ses enfants réalisent à quel point tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Je pense qu'on réalise à quel point on ne lui a pas coûté 180 000 euros, on lui a coûté la vie de son fils. Et on lui coûte sa grâce quotidienne. Tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Et je pense que c'est le rêve de Dieu qu'on réalise ça. Et au plus je le réalise, au plus je vais être aussi dans la redevabilité. Pourquoi? Parce que je suis un intendant. Donc je dois rendre des comptes de ma gestion. Puis on l'a vu là dans l'histoire, puis on va y revenir. L'intendant, lui, il a été infidèle parce qu'il gaspillait les biens de son maître. Ce qui veut dire que si j'utilise mal mon argent, j'utilise mal l'argent de Dieu. Il y a différents moyens de bien gérer ça. Mais tout est à Dieu, donc je suis redevable envers lui. Larry Burkett, un spécialiste sur les finances avec un regard chrétien, a dit la chose suivante. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est le propriétaire, toutes les décisions concernant nos dépenses deviennent des décisions spirituelles. Nous ne demandons plus, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mon argent? Mais la question est reformulée ainsi. Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ton argent? Lorsque nous avons cette perspective, les décisions qui concernent les dépenses et l'épargne sont aussi spirituelles que celles qui concernent les dons. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton argent? Et ça demande un changement de perspective, un changement de pensée, de ok, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Et qu'on soit honnête. J'ai dit au début, l'argent est neutre, mais en fait, il n'est pas si neutre que ça. L'argent, pour chacun d'entre nous, puis à petite ou grande échelle, l'argent, c'est un test pour chaque être humain. Parce que c'est hyper facile d'avoir l'argent comme Dieu. C'est super simple. L'envie de posséder, le pipi, même les films le montrent, la société dans laquelle on vit, c'est amour, gloire et beauté, c'est la richesse, c'est que l'argent, c'est ce qui domine le monde. L'argent peut facilement, si on ne fait pas attention, peut facilement nous maîtriser. Et la Bible est très claire. Soit je vais maîtriser l'argent, soit elle va me maîtriser. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de côté neutre. Il y a pas. C'est soit elle me maîtrise, soit je vais la maîtriser pour des bonnes motivations, pour la bonne cause, pour le royaume de Dieu. L'argent est un test. Et c'est pour cette raison que Robert Morris, un pasteur aux États-Unis, qui a écrit sur l'argent un livre incroyable qui s'appelle The Blessed Life. Et il dit que c'est intéressant que Jésus n'a pas dit « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Il a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La différence, elle est à noter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton cœur est attiré par ton trésor. Ce n'est pas ton trésor qui est attiré par ton cœur, c'est tu vas vers ce que tu aimes le plus. Je parlais de ma fille, moi c'est très simple de voir c'est quoi son trésor. Je lui ai demandé il y a deux jours, j'ai cru que j'allais avoir une discussion philosophique de vie avec ma fille. Et je lui ai dit « Blanche, c'est quoi la chose la plus importante pour toi ?» Elle m'a fait « Les bonbons !» J'étais un peu déçu, mais en même temps elle a 4 ans. Mais je voulais vraiment savoir si elle allait me parler de Jésus ou si elle allait dire ses parents, la famille, tout ça. Les bonbons, bon, on vient certainement en seconde, dans son classement en dessous. Mais en fait, c'est très simple de savoir qu'est-ce qui est important pour une personne. Donne-lui des sous et tu vas voir ce qu'elle fait avec. Donne-lui des sous, tu vas voir ce qu'elle achète et tu vas voir où est son trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Robert Morris dit que c'est intéressant de voir que en fait, le mot dîme dans l'Ancien Testament, ça veut dire 10, dixième, littéralement. Et le chiffre 10, prenez un petit pas de recul, le chiffre 10 dans la Bible, c'est presque tout le temps associé au test. Les 10 plaies d'Égypte. Pharaon va être testé, est-ce qu'il va se repentir? Les 10 commandements. Le peuple de Dieu, il est mis à l'épreuve, est-ce qu'ils vont m'obéir? Daniel, quand il commence son jeûne, ça va être 10 jours de test. Dans le désert, le peuple d'Israël, ils vont être testés 10 fois par Dieu pour savoir, ok, est-ce qu'ils vont garder un cœur vers moi? Les 10 vierges dans la parabole que Jésus va donner, c'est à chaque fois des tests, à chaque fois. Et voici le point. C'est pas tant que Jésus ou Dieu a besoin qu'on apporte la dîme, mais c'est plus pour vérifier qu'est-ce qu'il y a sur notre cœur. C'est un test. Et le roi David va le dire dans 1 Chronique 29, on l'a lu juste avant, le verset qui suit, verset 17, il dit la chose suivante. « Je sais, mon Dieu, en parlant d'argent, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je te fais toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. » C'est le même test que Caïn et Abel, ils ont eu. Moi, quand j'étais petit, je pensais que l'offrande de Caïn n'était pas reçue parce que c'était des légumes. Je me dis, mais non, Dieu, c'est pas un végétarien. Il faut qu'il préfère la viande. Ok, bon, j'étais jeune. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'était son métier, il cultivait la terre. Et Abel, lui, il avait les animaux. La différence, c'est que Abel a amené les prémices. Il a amené son meilleur. Et Caïn a amené... pris des légumes, il lui a donné. Et en fait, c'est une disposition de cœur. C'est pas tant qu'il avait besoin d'avoir un sacrifice. Le but, c'est pas nourrir Dieu. T'as plein de mythologies où c'est ça. Tu fais des offrandes pour nourrir Dieu. C'est pas ça le but. Dieu, pas besoin qu'on lui offre un steak. C'est pas ça le problème. Mais par contre, ce qui lui intéresse, ok, est-ce que mon cœur, il est droit? Est-ce que ma motivation de cœur, elle est bonne? Et l'argent est un des meilleurs tests pour ça. C'est un des meilleurs tests. Mon rapport à l'argent montre souvent si Dieu est en premier ou pas dans ma vie. Ça montre souvent ça. Et l'attitude de l'intendant, on revient à la parabole, l'attitude de l'intendant infidèle va montrer que lui, son but, ce n'était pas d'honorer son maître, parce qu'il va gaspiller ses biens. Donc on va juste continuer dans la lecture, puis voir un petit peu comment il va s'en sortir. On reprend la lecture. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On vient lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de mes biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. L'intendant gaspille les biens de son maître. Et ça, c'était un crime majeur à l'époque. C'est un peu comme quand le fils prodigue va utiliser l'héritage en avance alors que son père est vivant et qui va dilapider tous les biens de son père. C'est le même crime. Et ça, tu devais passer devant la justice pour ça. Tu aurais dû être condamné. Sauf que là, le maître commence à faire preuve de miséricorde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait juste lui enlever le travail. Il ne va pas l'emmener devant la justice. Et plusieurs théologiens, notamment Kenneth Bailey et Amar Djabala, vont dire ça. Il fait preuve de miséricorde. Alors oui, il enlève son bien, il enlève son travail, c'est pénible. Mais en fait, c'est aussi pour son bien, parce qu'il fait n'importe quoi avec les sous. Donc c'est déjà une première preuve de miséricorde de la part du maître. On continue, puis on regarde la réaction et la solution que l'intendant va trouver. Versets 4 à 7. « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux, quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fait venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile. » Répond-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, répond-il. » Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Plusieurs avis sur, ok, pourquoi il baisse, enfin, qu'est-ce qu'il enlève comme argent en facture ? Il y en a qui vont dire, bah, en fait, il enlève ses commissions. Il se repent vraiment, il enlève ses commissions, et puis il ne prend rien pour lui, puis il donne tout à son maître. D'autres vont dire, non, en fait, son maître, c'était un voleur, il a augmenté les intérêts à fond, donc là, il fait juste remettre le prix de base avec le bon intérêt. Mais en fait, quand on regarde les différents éléments qu'on a, le contexte ainsi que les mots dans le grec, ce n'est pas vraiment ça qui ressort. Puis la majorité des théologiens vont dire la chose suivante. En fait, il arnaque vraiment son maître. Il arnaque vraiment son maître. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait signer le papier au débiteur pour que lui il soit tranquille. C'est ok, assieds-toi et toi écris. Parce qu'il fallait que tu signes. Toi écris 50, toi écris 80. Du coup, ce n'est même pas lui qui est fautif. C'est les autres. Mais c'est bizarre parce qu'il arnaque son maître. Et Jésus va dire la chose suivante. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, ça c'est Jésus qui reprend, qui parle à ses disciples, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Qui aime se faire voler ici ? Parce que là, il est content le maître. Le maître est content de s'être fait voler. Pour bien comprendre pourquoi il est content et pourquoi Jésus va mettre en avant ça, il y a deux mots qui sont cruciaux, qui sont super importants. Le premier mot, c'est habilité ou habile. Habilité, c'est quoi ? C'est à la fois la sagesse orientale, l'intelligence pratique pour se sortir de difficultés. Et en même temps, ce mot dans le contexte, il y a une connotation eschatologique, c'est-à-dire par rapport à la fin des temps, par rapport au royaume, par rapport à la fin qui approche et le fait de vraiment faire attention à comment je dépense l'argent, de réfléchir à une stratégie. Et en fait, ça veut dire, c'est-à-dire comment fonctionne l'argent pour s'en servir pour l'avancement du royaume du maître, alors que nous sommes dans la fin des temps. Ce qui veut dire que là, le mot habile, il englobe plein de choses. Ça veut dire qu'il faut savoir comment, aujourd'hui, en 2024, comment l'argent fonctionne. T'as beau ne pas aimer le monde dans lequel on vit, un monde capitaliste, il faut que tu comprennes. Comment fonctionne l'argent ici ? Il faut que tu comprennes comment fonctionnent les intérêts à la banque. Si tu veux faire un crédit, il faut que tu comprennes comment ne pas se faire voler. Et il faut que tu comprennes aussi, pour tous ceux qui ont reçu un appel de libéralité, et puis je pense qu'on l'a tous reçu cet appel-là, mais un appel de créer des entreprises, il faut que tu saches comment créer de l'argent à partir de l'argent. Les femmes qui soutenaient Jésus dans son ministère, c'était des femmes d'affaires qui savaient faire de l'argent. Et c'est pas mal, c'est juste qu'elles ont compris. Elles ont été habiles. Elles ont compris, ok, dans quel monde on vit et comment je peux me servir du Dieu maman pour l'avancement du royaume. Et c'est ça, je pense, que la tradition catholique à l'époque, on a mis de côté. C'est ok, les riches, Jésus les condamne. En fait, Jésus ne condamne pas les riches. Jésus condamne les riches qui gardent tout pour eux. Et par contre, merci Seigneur pour tous les millionnaires, milliardaires qui donnent des millions et des milliards à l'avancement du royaume, parce qu'il y en a plein dans le monde. Il y en a plein. Merci Seigneur pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on a tous un appel à être riche, je ne pense pas. Par contre, on a tous un appel à être généreux. Que tu aies reçu un talent, trois talents, cinq talents, on oublie souvent que cette parabole, elle parle d'argent à la base. Ce n'est pas les dons et talents, je sais chanter, etc. On l'applique à ça souvent, mais ça parle d'argent. Et vous avez remarqué, celui qui a un talent, il l'enfuit. Et Jésus lui dit, tu aurais pu au moins le mettre à la banque pour avoir des intérêts. Tu aurais pu au moins faire ça. Et ce qu'il fait, c'est pas pour rien. Il lui enlève le talent. Il le donne à qui ? À celui qui fait le plus d'argent. C'est intéressant comme notion. Jésus n'est pas contre les riches. Jésus, justement, veut enrichir des personnes pour qu'elles soient beaucoup plus généreuses par la suite. C'est ça qu'il va mettre en avant. Et l'intendant, ici, il fait preuve d'habileté. Et la réaction du maître, elle est incroyable. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête. Alors, il reste malhonnête parce qu'il a volé son maître. Et il garde la notion quand même de malhonnêteté ici. Mais ce qu'il met en avant, c'est l'habileté que l'intendant va utiliser. Et l'éloge, de le mot grec, c'est l'approbation du maître. Ça fait référence, écoutez bien, ça fait référence à l'accueil et à l'approbation de l'homme par Dieu au jugement dernier. Ça veut dire que l'attitude du maître, il pardonne à l'intendant. C'est fort comme terme. Il lui pardonne. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, là, l'intendant fait une pierre deux coups. C'est-à-dire, la première chose habile qu'il fait, c'est qu'il a réussi à se faire des amis en abaissant les dettes. Ce qui fait que quand il n'aura plus de travail, il va pouvoir être logé par des amis. Parce que dans la culture juive, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, la personne est redevable envers toi. Elle doit aussi te faire un cadeau. Tu m'en dois une. Et du coup, là, il arrive à avoir des habitations. Et deuxièmement, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de créer une réputation de généreux à son maître. Donc, il est en train de répandre dans tout le village, « Hé, mon maître est un maître généreux. » Il fait ça avec les mauvaises raisons. Mais en fait, il fait ça pourquoi ? Pour avoir la faveur de son maître. Et ce que Jésus va dire, ce que Kenneth Bailey va dire, c'est un des spécialistes du contexte juif, il conclut de cette manière la parabole. L'intendant n'est pas loué pour son éthique, mais pour sa perception juste de la nature de son maître. Il lit correctement son maître. L'intendant fait l'expérience d'une miséricorde extraordinaire au début de l'histoire. Il aurait dû être en prison, mais ça n'a pas été le cas. Il choisit de tout risquer, convaincu que cette miséricorde et cette générosité sont au cœur de l'identité de son maître. S'il se trompe, il perdra tout, y compris la liberté de sa famille. Mais son jugement à l'égard de son maître est confirmé. Le gars, il s'est dit, « Ok, mon maître, ça a l'air d'être un homme généreux. » Puis certainement qu'il l'a vu quand il gérait ses biens, etc. Il a agi avec miséricorde, il aurait dû mettre en prison. Vous savez quoi ? Mais je vais tout miser là-dessus. Alors, il l'a arnaqué. Mais son maître a dit, bah ouais, je fais l'éloge de ce gars-là et je vais lui pardonner. C'est fou, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris que son maître était un homme généreux et qu'il avait le droit d'utiliser ses biens pour être généreux envers d'autres. Maintenant, on fait le parallèle. Je crois que Jésus nous appelle. On gère ses biens, on est ses intendants. Je crois que Jésus nous appelle à utiliser ses biens pour être généreux envers d'autres. Et la conclusion, elle est incroyable. Jésus nous appelle à nous faire des amis avec les richesses injustes. Ça, c'est un petit peu méli-mélo, mais en fait, là, Jésus fait un parallèle avec nous. L'intendant fidèle, il a utilisé l'argent de son maître pour avoir des habitations terrestres. Et Jésus nous appelle à utiliser des richesses injustes. En fait, richesses injustes, c'est juste un terme pour dire l'argent sur terre. Et injuste, justement, c'est parce que c'est pas si neutre que ça. Par contre, il nous appelle à nous en saisir pour investir dans les gens et qu'au ciel, il dit qu'au ciel, afin qu'on soit accueillis par des habitations éternelles. Quand l'argent viendra nous manquer, et quand l'argent viendra nous manquer, c'est quand on sera plus sur terre, tout simplement. Et ouais, Richard Foster, un théologien aussi qui a écrit sur ce passage, il dit la chose suivante. On dit souvent de l'argent que l'on ne peut pas l'emporter avec soi. Je vais juste appeler l'équipe de louange, j'aime bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Jésus dit cependant que si nous savons ce que nous faisons, nous pourrons l'emporter avec nous à la fin. Mais comment pouvons-nous déposer un trésor dans le ciel ? Il est impossible d'y déposer un chèque. La première question qu'il convient de se poser est la suivante. Qu'y aura-t-il au ciel ? Il est bien évident qu'il y aura des gens. Ainsi donc, l'une des manières dont nous pouvons nous constituer un trésor au ciel est d'investir dans la vie des gens. Nous pouvons emporter avec nous ce genre d'investissement. L'argent qui est investi dans les gens est celui qui est le mieux investi. Alors comment emporter son argent au ciel ? En faisant preuve de générosité. En reflétant qui est Dieu, qui lui a donné sa vie, puis qui a été généreux envers nous. Alors, il y a des questions à se poser. Est-ce que ma gestion de l'argent que Dieu me donne reflète sa générosité ? C'est une question à se poser. Est-ce que ça reflète qui il est ? Suis-je un bon intendant de ses biens qui reflète qui il est ? Il y a un des plus grands miracles que j'ai vécu. C'était il y a une dizaine d'années. On peut commencer à jouer si vous voulez. Et je travaillais dans le diagnostic immobilier. Puis du coup, j'allais chez des gens, je faisais des prélèvements pour savoir s'il y a de l'amiante, tout ça. Et je préparais mon mariage. Du coup, j'avais pas de sous. Et ça coûte cher un mariage. Et du coup, j'étais vraiment en mode, il faut que je fasse des économies à fond. Il faut que je me souviens, même à un moment donné, j'allais au travail en courant pour économiser de l'essence. J'étais vraiment à l'extrême. À chaque fois qu'on le midi, on allait au restaurant avec les amis, je prenais toujours le truc le moins cher. Donc j'en ai mangé des salades avec des petites tomates qui ont un goût, là, j'en ai mangé là. Et du coup, j'essaie vraiment de faire des économies. Puis, on habitait un logement et on n'avait pas de machine à laver. Du coup, on allait dans des pressings, dans des endroits où tu peux payer pour avoir la machine à laver, tout ça. Et ça marchait avec des pièces, ça ne marchait pas avec la carte bancaire. Du coup, j'avais toujours des pièces sur moi. Et je me souviens, j'avais quelques pièces de 2 euros et quelques pièces de 1 euro. Vous allez vraiment avoir une image de moi comme étant un radin, mais c'est pas grave, je me livre. J'avais à peu près 10 euros sur moi. Et du coup, je suis en voiture, je m'arrête à un feu rouge, je m'arrête au feu rouge parce que c'est rouge. Et puis il y a quelqu'un qui demande de l'argent, quelqu'un qui est dans la rue, tout ça. Et là, je suis tiraillé, je fais ah, mais non, mais j'en ai besoin pour faire ma machine à laver. J'ai 10 euros dans ma poche. Et du coup, j'ai dit ok, je vais prendre 3 pièces au hasard. Et dans ma tête, dans mon cœur, je ne l'ai pas dit, mais c'était j'espère que c'est des pièces d'un euro. J'espère vraiment que c'est des pièces d'un euro. Et là, je sors, et je sais que 3 pièces de 2 euros. Et j'étais dégoûté. Je fais mais non, j'aurais plus de sous pour ma machine à laver, comment je vais faire? Alors que j'avais des sous sur le compte en banque, mais. Je lui donne, tac. Je rentre chez moi, puis le lendemain, je retourne au travail. Je fais un diagnostic chez une dame. Et puis, je sors, et puis elle me dit, attendez. Elle me donne 3 pièces de 2 euros. Et vous savez quoi? C'est le plus grand miracle que j'ai jamais vécu en termes d'argent. Pas à cause de la quantité, on s'entend qu'avec 6 euros, tu vas pas bien loin. Mais quand elle l'a posé, il y a le Saint-Esprit bam, qui a martelé dans mon esprit. Hey, chaque fois que tu vas être généreux, je vais pourvoir à tes besoins. Je vais pourvoir à tes besoins à chaque fois que tu vas donner. Il ne m'a pas dit, je vais être 30 millionnaire, c'est pas ça qu'il m'a dit. Par contre, je crois que, puis écoutez bien ce que je dis. La prospérité, c'est, ils vont dire, ok, donne, et Dieu va répondre à tes désirs. Et si tes désirs, c'est d'avoir une belle voiture, une belle maison, c'est pas ça qu'on prêche. Par contre, ce que je crois, c'est que tu peux devenir millionnaire, mais en générosité. Je crois que quand tu vas donner avec sagesse, avec selon ce que Dieu te met à cœur, bien sûr, je crois que Dieu va toujours tenir ses promesses, qu'il a dit que ouais, ben je vais prendre soin de toi. Les oiseaux, ils ne moissonnent pas, mais moi, je les nourris. Parce que Dieu nous dit... Jésus nous encourage à nous amasser de trésors dans le ciel. Ça veut dire, ok, il faut il veut qu'on soit riche, mais il veut qu'on soit riche en générosité. Afin que quand on ira au ciel, puis qu'on verra peut-être des gens en qui on a investi, on dira, ok, t'as eu un impact dans sa vie parce que t'as été généreux. Parce que t'as reconnu qu'en fait, rien ne t'appartient, mais qu'avec les richesses injustes, tu peux te faire un trésor dans le ciel. Moi, ça fait 3 semaines que je suis sur ce message et il m'a énormément challengé personnellement. Vraiment. Et je crois vraiment, puis je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Par contre, je pense qu'on a besoin de donner. Parce que Jésus, dans cette parabole, puis vous verrez dans différents versets où il parle d'argent, il va dire que la seule clé pour ne pas servir le Dieu mammon, le Dieu de l'argent, c'est de donner. C'est ce qu'il va dire. Je pense que vous connaissez le passage où Jésus dit « L'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bonne santé, tout le reste est en bonne santé. » Vous savez que culturellement, l'œil en bonne santé, c'est un œil généreux. Et un œil en mauvaise santé, c'est un œil avare. C'est pas juste littéralement par rapport à ce que tu regardes. Non, c'est si ta générosité est en bonne santé, tout ton corps est en bonne santé. Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Ça veut dire qu'en fait, ça détermine beaucoup de choses. Parce que si on arrive à se défaire du Dieu de l'argent qui a énormément d'influence, généralement, c'est beaucoup plus facile de mettre Dieu en premier dans les autres domaines aussi. Dieu nous appelle à être généreux. Et je pense que pour ça, il faut lâcher prise. Lâcher prise. Il y a différents domaines dans lesquels il faut lâcher prise avec Dieu, mais je pense que ce domaine-là, en tout cas, moi, je me l'applique à moi-même et j'essaye à chaque semaine de lâcher prise parce que c'est moi qui fais les comptes à la maison et quand on est à deux doigts, ok, Seigneur, je vais te faire confiance. Et puis même si ce mois-ci, on a des grosses factures qui arrivent, je vais essayer d'être généreux. Je vais essayer. Au Brésil, au Brésil, il y a des personnes qui ont créé un piège pour les singes, pour les attraper. Et ce piège, il s'appelle le Kumbaka. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils creusent un trou, ils mettent une banane, mais le trou, c'est juste la taille de la main. Et du coup, le singe, il aime trop les bananes. Et puis, des fois, ils mettent d'autres choses, mais généralement, c'est des bananes. Il attrape la banane, mais du coup, en attrapant la banane, sa main grossit et il n'arrive pas à sortir. Et le seul moyen pour lui d'être libéré, c'est de lâcher la banane. Mais généralement, il ne lâche pas. Il est là. Il dit, non, je veux ma banane, je veux ma banane. Et le seul moyen d'être libéré, c'est de lâcher. J'ai cherché comme un tonneau, je voulais chercher un lingot d'or, mais je n'avais pas assez de sous pour l'acheter. Juste pour illustrer le côté où si tu attrapes le lingot, là, tu ne pourras pas sortir ta main. Et je pense que dans le domaine de l'argent, pour commencer à emporter, puis pour continuer à emporter un trésor au ciel, il faut lâcher prise. Et ça passe. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le côté intendant. Rien ne nous appartient. Et on aura à rendre des comptes à Dieu dans la manière dont on a géré nos finances, dont on aura géré la générosité et tous les biens qu'on a. On se lève ensemble ? Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai envie que Dieu fasse l'éloge de ma manière de gérer ses biens. Ce n'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est sa grâce, c'est le salut. Mais j'ai envie d'arriver au ciel et qu'ils me disent « Bon et fidèle serviteur, tu as été quelqu'un de généreux. » Il y a des gens qui ont découvert l'évangile grâce à ta générosité. Il y a des gens qui ont été encouragés. Il y a des gens qui ont vécu ma grâce, ma souveraineté grâce à ta générosité. J'ai envie d'être cet homme-là. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de répondre à cet appel aussi avec moi? Ok, fermez-vous ensemble. On va prendre ce chant qui parle de Dieu est puissant, mais je veux juste prier pour nous. Seigneur, merci parce que tu n'as pas juste donné une partie de tes revenus, tu t'es donné pour nous, tu as été généreux. Tu as donné ce que tu avais de plus cher, tu as donné les prémices, tu as donné le premier-né qui était ton fils. Et Seigneur, en réponse à ça, on veut premièrement te demander pardon, peut-être si on a gaspillé tes biens. Moi, je te demande pardon, je pense qu'à plusieurs reprises, j'ai gaspillé tes biens. À plusieurs reprises, j'ai voulu garder pour moi plutôt que d'être généreux envers une personne que tu mettais à cœur ou envers... Peu importe, mais Seigneur, on te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses nous aider à lâcher prise, à te faire confiance, à reconnaître que tout appartient et à reconnaître et à te faire confiance qu'en fait, tu pourvoiras nos besoins. Viens nous aider, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta providence. Et merci de faire de nous des disciples qui vont briller dans la société, peut-être avec nos voisins, peut-être des membres de la famille, des voisins qui ont des problèmes financiers. Seigneur, mets maintenant des noms à cœur, mets des montants à cœur, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut se débarrasser, qu'on peut bénir quelqu'un. Seigneur, conduis-nous, Saint-Esprit, on veut être ouvert à toi, on veut être enseignable, on veut juste se laisser. Viens nous parler, mets-nous quelque chose à cœur et viens nous donner le courage de l'accomplir et d'obéir à ce que tu nous dis. Au nom de Jésus. Amen.
Oh.
Amen, oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. Merci Jérôme. Alors j'ai qui va me dire « toute la gloire est à Dieu ». Oui, il a raison, toute la gloire est à Dieu, mais on peut l'encourager quand même pour ce message. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous a impacté, mais en tout cas, elle a impacté mon cœur. Et je sais que maintenant, je veux investir pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Et comme disait ma sœur quand elle m'a aidée, que j'étais en galère financière, « ne me rends pas, Dieu me rendra beaucoup plus que toi ». Voilà, alors vraiment, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si le message vous a impacté, vous allez sur ma gauche, une équipe écoute et prière qui sera là pour vous. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre semaine ou quoi, vous voulez le partager aussi, il y a une équipe écoute et prière qui sera sur votre droite et sur ma gauche. On vous souhaite un bon dimanche à tous, une bonne semaine et à la semaine prochaine.